Est-ce que vous vous êtes posé la question déjà, dans quel lieu Jésus prononce la prière de Jean 17? Quel est le lieu où Jésus prononce cette prière? Non, ne cherchez pas dans la Bible, il n'y a aucun lieu. Hein. Il n'y a pas de lieu parce que pour Jean, ce n'est pas le lieu qui est important. C'est les mots. Et d'ailleurs, on pense que ce texte a été prononcé lors du dernier souper parce qu'il est placé dans les chapitres 13 à 17. Mais là aussi, on n'en est pas forcément sûr. Ce qui est certain, c'est que Jean voulait donner un sens à cette prière après tous les chapitres 13. Vous vous souvenez, le chapitre 13, c'est un chapitre capital. Je suis le Seigneur et je vous lave les pieds. Je vous lave les pieds parce que j'ai entendu qu'en chemin, vous avez discuté pour savoir qui est le plus grand. Eh bien, je voudrais vous montrer ce qu'est être grand. Et puis, une fois lorsque vous avez compris ce qu'est être grand, votre espérance peut dépasser tout. Et le chapitre 14 nous dit, ne craignez rien. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il donne une perspective à notre vie, à notre foi. Et puis Jésus sait que la vie est difficile. Alors, chapitre 15, il va dire, écoutez, voilà, la vie est difficile. Mais si vous voulez qu'en tant soit peu, elle soit supportable, il faut que vous restiez attaché au cep. Parce que tant que vous êtes attaché au cep, il y a la sève qui monte et le fruit est au bout. Et puis le chapitre 16, Jésus va dire, je m'en vais, mais je vous envoie un consolateur qui sera tous les jours avec vous. Et le chapitre 16 finit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et c'est après ces quelques idées, je suis désolé, j'ai pris quelques idées dans ces chapitres, que Jésus prononce cette prière. Nous nous sommes partagés avec Nicolas Léo, le début du chapitre 17. Eux, ils vont traiter du verset 1 jusqu'au verset 3, voire jusqu'au verset 5. Et moi, j'ai choisi de traiter du verset 6 au verset 12. Je me demande quelle était l'ambiance. Je ne sais pas, les disciples viennent de vivre quelque chose de très fort et tout à coup Jésus se met à prier. Il se met à prier et avec des mots simples, mais des mots qui sont très forts. Il prie d'abord pour lui-même. Donc vous voyez, quand vous priez pour vous-même, vous ressemblez à Jésus. Et puis, il prie pour son œuvre que Dieu lui a confiée. Et puis, il prie pour les disciples qui sont présents. Et puis, il prie aussi pour ceux qui vont arriver par le témoignage des disciples, c'est-à-dire toi et moi. Vous voyez, cette prière est une prière qui couvre la totalité du salut. La plus grande partie de cette prière porte sur l'unité. Jésus sait que la première chose que Satan va faire, une fois lorsqu'il n'est plus là, c'est de désunir l'Église. Il le sait. Et il va prier à plusieurs reprises, « Je te prie pour qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. » L'unité est la marque de fabrication de Jésus. Jésus est venu pour sauver, pas qu'une catégorie, il le dit très souvent, pour sauver tous ceux qui croient en lui. Alors, je vais maintenant essayer de reprendre ce texte à partir du verset 16. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Les disciples sont le cadeau de Dieu à son Fils. Il les a pris de ce monde et il les a donnés à Jésus. Alors, je voudrais qu'on lise juste comment ce présent a été donné. Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, le fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Nous avons ici l'impression que c'est Jésus qui fait le choix. Oui, c'est Jésus qui fait le choix, après avoir passé toute la nuit à prier Dieu pour lui demander « Demain matin, quand je dois les choisir, il faut que tu me dises ceux que tu as mis de côté. Ceux dont tu as fait un cadeau et dont tu veux me faire un cadeau. » Je ne sais pas si nous mesurons la relation père-fils. Le Fils est totalement dépendant du Père et il veut que ça soit su. Et quand Marc nous rapporte comment Luc, quand il nous rapporte comment les disciples ont été choisis, Luc est un grec, c'est un médecin, c'est un cérébral aussi. Mais il essaye de nous mettre dans l'ambiance parce qu'il veut nous sensibiliser sur le fait de savoir comment les disciples ont été choisis. Mais si je pense aux disciples, pourquoi vous êtes là ce matin? Vous êtes le cadeau de Jésus? Mais vous êtes là parce que le Père vous a choisi comme un cadeau et vous a mis à part, le texte nous dit. Nous aussi, nous avons été mis à part par le Père pour être le cadeau de Jésus. Ce cadeau, Jésus a essayé de le protéger. De le garder, pas il a essayé, il a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles je choisis la version du semeur. Il dit, je les ai gardés pour que ma gloire rayonne sur eux. pour que ma gloire rayonne sur eux. » Et je ne sais pas si les disciples ont compris ce jour-là que la gloire de Jésus rayonnait sur eux. Je ne sais pas. Et cela importe peu. Mais ce qui est certain, c'est que ça, c'était la réalité, parce que leur prédication, parce que leur conviction, parce que la parole qu'ils ont distribuée et fait connaître a fait qu'il y a eu des millions de chrétiens et vous parmi eux. Est-ce que les disciples comprennent cette parole? Que ressentent-ils devant ces paroles fortes? Je vous rappelle que Jésus dit, « Maintenant ils savent tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Jésus ne cherche plus maintenant à faire découvrir une facette du Père supplémentaire. Non, il cherche à toucher les disciples pour leur dire « Tout ce que je vous ai dit, ça vient du Père. » Essayez de vous imaginer cet après-midi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, à la place des disciples et vous lisez ce texte. Et essayez de voir ce que ce texte va vous dire. Lisez-le à haute voix pour que vous entendiez les mots. Il y a plusieurs façons de faire le choix. Là, j'ai évoqué la façon dont Jésus a fait le choix. Mais il y a une deuxième façon de faire le choix. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, on nous dit que quand Judas est allé se pendre, il n'était plus parmi les 12. Pierre se lève et il dit « Maintenant, on n'est plus que 11, ça ne va pas. » Dieu sait compter jusqu'à 12, donc il faut qu'on trouve un 12e, qu'on remplace Judas. Alors, je vais vous lire le texte. Pierre se leva au milieu des frères. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. On présenta deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place de Judas que Judas a désertée afin d'aller à ce qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort Matthias, qui fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11. » Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont Jésus a choisi les disciples? Toute la nuit dans la prière, et il a laissé le Père lui donner le cadeau. Je suis très étonné de ce que les disciples font. Ils posent tout un tas de conditions au Saint-Esprit. Premièrement, il faut que qu'on choisisse quelqu'un qui marche avec nous depuis le début de du baptême. Et puis ensuite, qui a été tout le temps avec nous. Et puis ensuite, qui a été témoin de la résurrection. Et puis ensuite, et ensuite, je m'arrête parce que je n'ai pas le temps. Et quand on regarde dans l'assemblée et puis qu'on essaye de trouver, ben on en trouve deux. Et on dit au Saint-Esprit généreusement, écoute, voilà, il y a les deux, maintenant c'est à toi de choisir. Je me dis, mais on n'est plus dans le cadeau. On n'est plus dans quelque chose qu'on reçoit. On est dans quelque chose qu'on a formaté, on est dans quelque chose qu'on veut que ça se réalise comme nous, nous le pensons. Oui, ça c'est la façon des hommes. Jésus, lui, va faire le choix très différemment, et je vais revenir dans très peu de temps. Lui, il a déjà choisi, mais c'est lui qui l'a choisi, il ne peut pas l'appeler encore. Alors il patiente. La troisième façon de faire le choix, c'est celle que Jésus va utiliser. Il y avait parmi les enseignants à Jérusalem plusieurs docteurs de la loi. Et parmi ces docteurs de la loi, il y avait un homme qui se nomme Saul. Et Jésus voudrait l'appeler, mais il sent que au sein des apôtres, ça ne passerait pas. Alors, je suis très sensible à la façon dont Dieu va s'y prendre. Tout en respectant le temps, je vais juste faire quelques étapes. Premièrement, il va accorder le Saint-Esprit pour que Pierre soit capable de prononcer une prédication qui va toucher à peu près une trentaine de langues et une trentaine de nations présentes à Jérusalem. Et qui va faire, par le Saint-Esprit, qui va toucher par le Saint-Esprit 5000 personnes. Puis ensuite, il va permettre que Pierre soit emprisonné et libéré. Libéré après que, dans la maison d'Hérode, on prie toute la nuit et on demande à Dieu de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne compte plus sur nous, on compte sur lui. Et quand Pierre vient et qu'il frappe et que Hérode le voit à travers la porte entrouverte, et puis qu'elle va dire « c'est Pierre, personne ne les croit. Personne ne croit qu'une géole puisse s'ouvrir et que Pierre puisse être libéré. On a prié toute la nuit pour ça, mais on n'y croit pas. » Quand la réponse arrive, elle est tellement surprenante qu'on a du mal à y croire. Et puis, il y a la persécution. On va lapider Étienne. Et puis, après la persécution, il y a Pierre qui part pour voir un tout petit peu comment vivent les nouvelles communautés vers la Méditerranée, à Jopé, etc. Il arrive à Lydde. Il fait des guérisons, et à Jopé, il s'installe chez un courroyeur. Un courroyeur, normalement, on ne doit pas y entrer, puisque toute la journée, il travaille du sang, il travaille les peaux, et on ne devait pas rentrer chez des gens comme ça. Et il est sur la terrasse, et il reçoit une vision. Et vous connaissez cette vision des animaux de toutes sortes. Et il y a trois hommes qui arrivent, qui frappent. Et Pierre va partir finalement avec ces trois hommes. Il va arriver chez Corneille. Il sait que Dieu l'envoie. Sinon, il ne serait pas allé. Mais quand il arrive, il y a le naturel qui prend le dessus. Au lieu de se réjouir, de dire « Je remercie le Seigneur qu'une famille de païens se donne à Jésus-Christ et qu'il adresse une prière de gloire », Il commence par balbutier, vous savez, normalement, je ne devrais pas être là, parce qu'il n'est pas permis à un juif d'être avec des païens. Et puis Dieu devra intervenir, le Saint-Esprit qui descend et qui va faire que Pierre, quand il explique au chapitre 11 aux disciples, il dit, écoutez, je ne pouvais rien faire. Dieu les a baptisés par l'Esprit. Alors comment je pouvais leur refuser l'eau? Vous voyez tout le cheminement que Dieu prend le temps de faire pour qu'il puisse introduire un apôtre comme Paul. Et puis Paul va être appelé. Et quand il est appelé, c'était la grande joie dans l'Église. Pas du tout. Le premier, Ananias, le plus fidèle, il a quelques réticences. Et c'est normal. C'est normal parce que quand l'Esprit de Dieu, parce que quand unis au Christ, nous sommes appelés à faire des choses, nous devons accepter de nous remettre en question. Nous devons accepter notre façon de penser, que notre façon de penser est la seule façon de penser. Comment les choses vont se passer? Dieu appelle Paul, qui respire encore le meurtre, qui est dans une grande colère, qui a assisté à la lapidation d'Étienne. Et tout ça, pour le moment, ne touche pas Paul. Paul, il va trouver les souverains sacrificateurs pour avoir des laissez-passer pour aller à Damas et persécuter les illuminés qui croient à la résurrection de Jésus. Et là, sur la route, quelle que soit la route qu'il ait pu prendre, les deux routes qui passaient par les terres ou la mer, il va rencontrer des souvenirs. S'il passe par la mer, il va rencontrer Carmel, Élie, le sacrifice. Il va rencontrer la veuve de Sarepta qui nourrit Élie. Il va rencontrer la femme dont Élisée va ressusciter le fils. Ça, c'est des choses qui, pour Paul, sont bien casées dans son esprit. Mais dans ces contrées-là, il y a des gens qui lui parlent, mais tu sais, ici, il y avait un certain Jésus, il a nourri 5000 personnes. Et puis 4000 personnes. Et puis il a transformé l'eau en vin. Et puis il a guéri des hommes possédés. Une femme qui avait une perte de sang, des paralytiques, des sourds, des muets. Et puis il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus. Vous vous imaginez ce qui se passe dans la tête de Paul? C'est un choc. Il faut accepter ça. Il va combattre ceux qui sont les partisans de Jésus. Et de quoi on lui parle? On lui parle de ce que Jésus a fait. Finalement, Paul arrive vers Damas et puis il a une lumière. Une lumière qui le fait tomber de son cheval, suivant les versions que vous lisez. Il entend une voix. Pour Paul, Jésus a eu ce qu'il méritait. Il n'a pas respecté la Torah, il n'a pas respecté la loi, il a été crucifié, c'est normal. C'est un point final, on n'en parle plus. Mais cette fois-ci, dans cette lumière, il y a une voix qui lui dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul est surpris. Mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis Jésus. Dans la tête, c'est une bombe atomique qui fragmente tout. Alors, si tu es ressuscité, ça veut dire que Étienne, quand j'ai approuvé sa lapidation et quand il a dit qu'il te voyait debout à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il a dit vrai. Mais ce n'est pas possible. Je voudrais juste qu'on essaye de se mettre dans l'ambiance d'une semaine de prière. Une semaine de prière, ce n'est pas simplement des réunions où on vient pour chanter un tout petit peu et passer des moments ensemble. Une semaine de prière, Dieu veut que ça soit quelque chose de bouleversant, quelque chose qui, dans notre tête, nous dit « Ok, tu as passé une année comme ça, tu as passé 40 années de ta vie comme ça, mais voilà, lors de cette semaine, je voudrais te révéler quelque chose d'autre. Tu es sur un chemin, c'est ton chemin de Damas, et là, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Mais ça ne sera possible que si on veut bien que Jésus se révèle. Je voudrais maintenant aller vers la conclusion. Et je voudrais parler juste quelques instants du choix. Vous voyez, ici, sur cette terre, il y a deux personnages et uniquement deux personnages qui peuvent faire des choix. J'espère ne pas vous choquer. Le premier personnage, bien sûr, c'est Dieu. Et le deuxième personnage, c'est Satan. Vous êtes soit choisi par Dieu, soit choisi par Satan. Vous avez donné votre consentement soit à Dieu, soit à Satan, mais il n'y a pas de troisième voie. Mais je voudrais juste vous rappeler que si vous êtes choisi par Satan, Satan vous destine à la mort. Parce que Satan est déjà mort. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est déjà mort. Il ne peut pas vous choisir pour vous donner la vie. Il ne peut que vous choisir pour vous donner la mort, tôt ou tard. Le seul qui puisse vous choisir pour la vie, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il est mort, pour que vous puissiez espérer, pour que vous puissiez croire, pour que vous puissiez recevoir la vie. Et ça fait toute la différence. Ellen White écrit en 1891, « Vous, habitants de la terre, louez Dieu. Pourquoi ? Parce que par Jésus-Christ, dont le bras humain entoure l'humanité et dont le bras divin saisit le trône de l'infini, construisit un pont au-dessus de l'abîme avec son propre corps et ce monde, petit comme un atome, qui fut séparé du continent du ciel par le péché et fut converti en une île, est à nouveau réhabilité parce que Christ le sauve de l'abîme. C'est ce que nous avons vu à l'école du sabbat. La folie de la croix fait que cet atome qui est notre terre est de nouveau connecté au continent céleste par Jésus-Christ. Alors, évidemment, j'étais un tout petit peu surpris dans le chant « Je connais un pays » que le frère qui l'a écrit, qu'aucun flot n'atteint le croyant. J'aimerais tellement que ça soit vrai. Mais voyez-vous, Joseph a été choisi par Dieu. Puis vendu, puis emprisonné, puis maltraité. David a été choisi par Dieu, persécuté. Daniel a été choisi par Dieu, et pourtant, il descendra dans la fosse aux lions. Les trois compagnons de Daniel, choisis par Dieu, et pourtant, la fournaise. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quand Dieu nous choisit, il nous choisit pour la vie. Mais avant d'arriver à cette vie, il y a la vie d'ici-bas. Et ici-bas, c'est lui qui nous a vus et qui nous voit faire le choix de Dieu, ne reste pas les pieds dans le même sabot. Il essaye de tout faire pour que nous arrachions à ce choix que Dieu fait de nous. Je suis reconnaissant à Dieu parce que Joseph est devenu premier ministre. David est devenu roi. Daniel était prophète. Les trois amis sont sortis de la fournaise. Vous voyez, je voudrais juste que nous comprenions que avec Dieu, les choses ne se passent jamais comme nous le pensons. Mais si nous faisons confiance à Dieu, ce que nous pensons au plus profond de notre être, c'est ce qu'il réalisera pour nous. Parce qu'au plus profond de notre être, à quoi vous pensez maintenant ? Mais vous pensez à la vie éternelle. Et ça, il est le seul à pouvoir le faire et à le réaliser. Voilà. Maintenant, je voudrais venir un tout petit peu au thème pour les 3 ou 4 dernières minutes. Unis au Christ pour aimer et partager. Oui, vous voyez, quand Dieu nous choisit, il nous adresse aussi une mission. Dans le chapitre 17 que nous avons lu au départ, Jésus dit pour les apôtres, « Pour que ma gloire rayonne en eux. » Mais pour nous aujourd'hui, par exemple, Dieu veut que nous soyons les yeux, ses yeux, sur le besoin des autres, qui voient les besoins des autres. Il veut que nous soyons les oreilles qui entendent la souffrance des autres, la joie des autres. Il veut que nous ouvrions les cœurs à la compassion. Il veut que nous nous mettions en marche pour soulager les gens autour de nous. Mais quand nous aurons fait tout cela, on n'aura fait que du travail, un travail social. Et Dieu veut que nous fassions un pas supplémentaire. Alors, voilà ce que Dieu veut. Je vous lis ce qu'il a dit à Paul, mais je voudrais que vous l'entendiez comme le disant à vous. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voilà ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Dieu vous choisit. Voilà pourquoi Dieu m'a choisi. Il ne m'a pas choisi pour venir juste vous prêcher ici. Il m'a choisi aussi quand il y a un malade, d'aller le visiter. Il m'a choisi aussi quand il y a un mourant, d'aller l'accompagner. Et pour vous, ça peut être autre chose. C'est amener une présence que je ne suis pas capable d'être, mais que je suis capable de représenter pour quelqu'un. Vous allez maintenant repartir chez vous, certains, comme Pascal et moi, on va aller au Diableret. Vous allez commencer une nouvelle semaine, une semaine de prière. Et pour vous accompagner pour tous ces temps, je voudrais vous rappeler juste ce que Jésus dit. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour que tu continues ce que j'ai commencé. Je t'ai choisi pour que tu achèves ce que, avec moi, tu as commencé. Et puis, je t'ai choisi pour que bientôt. Bientôt. Tu sois à mes côtés. Écoutons maintenant une prière chantée donc par Tennessee Ernie Ford. Et j'ai oublié le nom de la chanteuse.
Of an angel breathing a lesson unheard, hope with a gentle persuasion whispers her comforting
Puisque nous sommes choisis, toi, lève-toi au nom de Dieu, portez l'amour de Dieu au monde. Lèvons-nous, chantons de tout notre cœur ce cantique.
Toi, lève-toi et va au nom du Christ.